Seigneur, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par cette vérité. La question, la manière plutôt dont on aborde les différentes questions problématiques dans nos vies sont importantes. L'angle d'attaque est important. C'est vrai aussi pour les joueurs de rugby qui ont commencé la Coupe du Monde de rugby. Si on cherche à franchir frontalement une ligne de défense, c'est pratiquement impossible. Quand on invente des courses différentes, des orientations différentes, alors le ballon peut vivre et peut être partagé avec ses frères et sœurs de jeu. Un cinéaste, un réalisateur, quand il fait un film, suivant qu'il prendra le point de vue de la victime ou du bourreau, ne va pas faire le même film, pourtant c'est le même sujet. Mais l'angle est différent. Il en est de même, je crois, pour les textes bibliques, la manière dont on entre dans les textes bibliques. L'angle que l'on choisit va induire évidemment notre interprétation du texte. Et c'est juste, et c'est bien ainsi. Et c'est ce qui fait que le texte est vivant et le texte de la Bible est tellement lumineux, tellement inspiré que quel que soit l'angle d'attaque, il a une parole à nous donner. Nous avons une parole à recevoir de ce texte. Ce matin, donc, c'est Michel qui m'a fourni l'angle d'attaque pour ce texte. Elle m'a dit, j'aimerais, comme elle vous l'a partagé, vraiment que ce texte soit au cœur de la célébration de mon baptême. Et donc, j'entre dans ce texte avec vous sous l'angle du baptême. Qu'est-ce que ce texte a à nous dire aussi du baptême? Et j'aimerais entrer dans son texte autour des relations, puisqu'un baptême, c'est peut-être d'abord la relation entre un homme, une femme et le Christ. J'aimerais entrer dans ce texte en partageant avec vous les relations qui se tissent entre cette femme au parfum, dont on ne connaît pas le nom, et le Christ, et puis les relations qui se tissent entre ce pharisien nommé Simon, lui on connaît son nom, et le Christ. Et en dernier lieu, je vous ferai part du lien que je fais entre ce texte et le baptême. D'abord, les relations qui se tissent entre le Christ et cette femme, elles sont extraordinaires, magnifiques. Et peut-être la première chose qu'on peut dire, c'est qu'il y a un accueil réciproque. Le Christ accueille pleinement cette femme et cette femme accueille pleinement le Christ. Un accueil fort. Alors qu'ils ne se connaissaient pas avant, ils ne s'étaient jamais rencontrés. Et voici que se tisse entre eux un lien fraternel très très important. Ils ne connaissent rien de leur passé, ils ne connaissent rien de leur avenir. On ne sait pas quelle est la religion de cette femme, on ne sait pas ce qu'elle a fait. Elle peut-être, a-t-elle entendu déjà le Christ prêcher ? On ne le sait pas, mais en tout cas, il y a ce moment magique, ce moment où deux êtres se rencontrent corps et âme, puisque vous l'avez entendu, dans ce texte, il est question d'une rencontre de corps et une rencontre d'âme. Au cœur de cette rencontre, il y a bien sûr l'indignité que porte cette femme, l'indignité liée à son statut de pécheresse. Le texte biblique nous le dit comme cela, elle était pécheresse. Quelle est la nature de son péché? On ne le sait pas, le texte ne nous dit rien là-dessus, mais on sait que quelque chose lui pèse lourdement, l'empêche d'être libre, l'empêche d'être en paix. C'est sans doute pour cela que la dernière parole que le Christ lui adresse est celle-ci. Ta foi t'a sauvé, va en paix, tu peux aller en paix, tu peux vivre en paix dans ce monde. Mais jusqu'à ce moment où elle rencontre le Christ, elle n'est pas en paix. Et le signe de cela, ce sont ses larmes abondantes qui vont mouiller les pieds du Christ. Elle se sent indigne de l'amour du Christ. Et pourtant, ce jour-là, elle décide, malgré son indignité, malgré ses larmes qui disent sa repentance, elle décide de franchir les frontières, de laisser de côté tous les tabous. Elle sait bien qu'elle est mal vue par l'ensemble de la société. Elle sait bien que quand elle va entrer dans la salle où est réunie cette assemblée avec le Christ, elle va être jugée, elle va être mal regardée, mais rien ne peut résister à cet appel du cœur de rencontrer le Christ et de recevoir de lui son pardon. Et je voudrais lever une ambiguïté parce qu'elle est très claire dans le texte. Souvent, on associe à cette femme le fait qu'elle soit prostituée. Le texte ne nous dit pas qu'elle est prostituée. C'est le mot pécheur. Et le texte nous dit cette chose très belle, que la nature de son amour est de l'ordre de ce mot grec, puisqu'en grec, il y a plusieurs manières de dire aimer, hein, l'agapo, philéo, qui est plutôt l'amour fraternel, et puis la dimension érotique. Et dans ce passage, le mot grec qui est convoqué, c'est celui de philéo. C'est donc un amour fraternel, un amour maternel, un amour paternel. Ce mot philéo, c'est le mot qui est employé quand on dit dans l'évangile de Jean que le Père aime le Fils et que le Fils aime le Père. C'est très beau. La nature de la rencontre entre cette femme et le Christ est de l'ordre de la nature de la relation qui existe entre le Père éternel et le Christ. Vous entendez bien qu'il y a là une très grande sincérité, un très grand amour, manifesté encore une fois par le fait que cette femme mouille les pieds du Christ par ses larmes. Elle les embrasse et verse sur ses pieds, sur son corps, du parfum. Et le parfum, bien sûr, c'est important. Dans la Bible, le parfum, c'est ce avec quoi on oint l'élu, on oint le prophète, on oint le futur roi d'Israël. Alors, ce jour-là, il me semble, quand cette femme parfume les pieds, peut-être même le corps et la tête de Jésus-Christ, elle dit, elle confesse devant tous que Jésus est bien pour elle le Seigneur. Elle dit, elle confesse devant tous que Jésus est bien le Fils de Dieu. Magnifique confession de foi, magnifique liberté de la part de cette femme, encore une fois, qui fait fi de tous les regards qui peuvent se poser sur elle. Elle reçoit le pardon et la grâce de son Seigneur, et elle peut partir en paix. Attardons-nous un moment maintenant sur les relations qui s'instaurent entre Simon le pharisien et Jésus. Il faut donner le droit, je le crois, à ce pharisien d'avoir voulu inviter Jésus-Christ, non pas pour le piéger. Certains textes nous disent, dans d'autres péricopes, que des pharisiens invitent Jésus pour le piéger, pour le faire tomber, pour le faire chuter, afin qu'il puisse être condamné. Telle n'est pas, je crois, la volonté de Simon. Je crois qu'il a un vrai désir de connaissance, de savoir. Il reconnaît Jésus comme un maître, il l'appelle maître. Toi qui es le maître de l'interprétation, Jésus est tout de suite, dès le début de sa prise de parole, considéré comme un grand rabbin, un grand interprète de la loi. Et je pense que ce pharisien a, au départ en tout cas, le désir d'entendre une interprétation nouvelle, lumineuse de la loi, de la parole. Mais voici que très vite, ce lien de confiance qui unit Simon et Jésus, ce lien de confiance est remis en cause par le regard que ce pharisien porte sur cette femme qui s'invite à son repas. Il sait que c'est une pécheresse et il se dit en lui-même, si Jésus était vraiment le Fils de Dieu, si Jésus était vraiment un prophète, il saurait que cette femme est impure. Il saurait que cette femme est une pécheresse et jamais il n'aurait autorisé à ce qu'elle s'approche de lui et qu'elle l'embrasse. Assurément, il n'est pas ce qu'il dit. Au cœur de cette défiance, il y a sans doute l'orgueil de ce pharisien sûr de sa foi, sûr de sa loi, sûr de son rapport à Dieu, sûr que c'est bien évident l'obéissance à toute la loi qui doit conduire au salut. C'est sa théologie de pharisien, il était formé comme cela. On sait combien il est difficile de savoir quelquefois prendre de la distance avec sa formation théologique, avec son histoire. Et ce jour-là, Simon n'y arrive pas. Il reste fermé à l'amour du Christ, alors que cette femme pécheresse a su s'ouvrir à cet amour du Christ. Alors il y a cette explication que lui donne Jésus, cette parabole où il dit que celui qui a le plus péché sera le plus aimé. Mais voyez-vous, je partage avec vous cette question. Je me demande au final qui est le plus pécheur dans cette rencontre entre Jésus, cette femme au parfum et ce pharisien. Qui a le plus péché? Qui est le plus pécheur? Est-ce cette femme à cause des péchés qu'elle fait dans sa vie? Ou est-ce ce pharisien qui n'arrive pas à accueillir Jésus-Christ pour qui il est? Quel est le plus grand péché finalement? N'est-ce pas de ne pas accueillir le Christ? N'est-ce pas de ne pas accueillir Dieu dans sa vie? Si Dieu existe véritablement, si on le croit fermement, n'est-ce pas le plus grand des péchés de ne pas l'accueillir? Alors, à la lumière de cette explication-là, je pense, pour ma part, on peut en discuter, mais que le plus grand pécheur, ce jour-là, ce n'est pas cette femme pécheresse, mais c'est bien Simon, ce pharisien, qui n'arrive pas à ouvrir son cœur au Christ qui s'est avancé. Et alors, la parabole du Christ prend encore plus de sens et de dimension. Il dit, tu vois, cette femme, finalement, elle a péché, mais pas terriblement. Et elle m'a embrassé les pieds, elle m'a aimé de tout son cœur, de tout son corps. Et toi, qui es le plus grand des pécheurs puisque tu ne m'accueilles pas, tu devrais faire beaucoup plus que cette femme. Tu devrais m'embrasser, tu devrais me couvrir de parfum, mais tu ne le peux pas encore. Car je fais le pari que rien n'est jamais irréversible, et je fais le pari que peut-être au final cette rencontre de Simon avec le Christ va changer sa vie. Il lui faut peut-être encore un peu de temps pour réaliser ce qui s'est passé, mais je fais le pari que cette rencontre a malgré tout, pour une part, changé sa vie. Que nous dit ce texte du baptême? Je crois qu'il nous dit beaucoup de choses. Dans un baptême, il y a de l'eau, l'eau que j'ai versée sur le front de Michel. Et ce jour-là, j'aime bien lire que l'eau est présente dans les larmes de cette femme au parfum. J'aime bien entendre, découvrir qu'elle est finalement baptisée par ses larmes et qu'il n'y a pas de baptême sans larmes, qu'il n'y a pas de baptême sans reconnaissance de son indignité, de son péché. Je vois aussi dans ce texte l'idée qu'être baptisé, c'est oser. Oser un jour s'avancer, Michel, c'est quelquefois difficile. Pour toi, ça a été long, pour d'autres, c'est plus facile. Ce jour-là, cette femme a eu le courage de s'avancer, d'oser. Elle a sans doute hésité pendant longtemps, et puis c'est peut-être le courage de la désespérance. À un moment, on sait que c'est maintenant ou jamais et qu'il faut y aller. Cette femme au parfum savait peut-être qu'elle ne reverrait jamais plus le Christ, et elle se lance. Le baptême, c'est cela, se lancer dans la vie, se lancer vers Dieu sans savoir ce qui nous attend, mais en étant sûr ou en ayant l'intuition que ce qui nous attend, eh bien, c'est le meilleur pour nous. Un baptême, c'est aussi une parole reçue. Cette parole que nous sommes les bien-aimés de Dieu. Cette parole que nous pouvons avancer en paix. Cette parole aussi que chacun d'entre nous, nous sommes appelés à bâtir l'Église du Christ. Ensemble, en tant que communauté vivante, en tant que pierre vivante, nous sommes appelés, encore une fois, oui, à répondre à l'appel du Christ. Être baptisé, comme tu l'as fait, Michel, c'est aussi confesser sa foi devant une assemblée, avec des mots, avec des larmes, avec des gestes. Et ce jour-là, on peut dire alors qu'il y a baptême, puisque cette femme au parfum a confessé sa foi, et combien? Et puis, il n'y a pas de baptême, bien sûr, sans amour, c'est le plus important. Le baptême, c'est une double déclaration d'amour. Déclaration d'amour de Dieu pour le monde qu'il a créé, pour chacune de ses créatures, pour chacune et chacun d'entre nous. Déclaration d'amour, Michel, de Dieu pour toi, il t'aime de toute éternité. Et déclaration, bien sûr, d'amour du baptisé envers le Seigneur. Je suis indigne de m'avancer vers toi, mais je crois à ta grâce. Je crois à ton pardon. Je crois que tu veux m'accueillir. Alors Michel, merci pour ce choix de texte qui m'a incité à être un peu créatif, je l'espère. Dieu se réjouit de ton baptême, Michel, et notre communauté chrétienne se réjouit avec lui de ce choix, jour de joie pour toi et pour la communauté. Amen.